foi est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Bonjour Luc.
Salut Eric.
Écoute, j'avais hâte de te parler parce que toute la semaine, on a parlé de politique américaine. J'ai rarement entendu autant parler de politique américaine. Ça n'arrête plus. On pensait que c'était pour être réglé en fin de semaine, la destitution ou le projet de destitution du président Trump, mais ça va être aujourd'hui peut-être finalement que ils vont voter. Après ça, il y a eu les primaires, pas les primaires, les caucus en Iowa qui ont eu lieu lundi. On est 48 heures plus tard, on attend encore les résultats, mais c'était... Et là, hier, c'était le grand discours de Donald Trump. Puis, à matin, j'ouvre les journaux, puis on parle juste de Nancy Pelosi qui déchire le discours. C'est une grosse semaine.
C'est une assez grosse semaine, en effet, que tu la résumes comme ça.
Mais c'est sérieusement, c'est ça dont les Américains vont se rappeler?
Tu vois, aux États-Unis et même au Canada, les nouvelles passent, là, puis là, on pense que c'est gros, puis ça va être énorme, puis ça va être ci, puis ça va être ça, puis 3-4 jours plus tard, on s'en rappelle plus. Alors, faut quand même retomber par terre. Deuxièmement, je voudrais parler du caucus de l'Iowa.
Oui. Il y a 48 heures, on attend encore les résultats. Ça a l'air qu'on va les avoir d'une minute à l'autre.
C'est vrai, mais quand même, ils sont rendus en haut de 70%
ils ont fait le job. En 48 heures, on en compte du vote.
Ouais, d'abord, ça fait mal paraître le Parti démocrate, pas à peu près, là, pas capable d'organiser une primaire comme celle-là. Puis ils ont un app, comme ils ont dit, qui était nouveau, puis ils ne l'avaient pas testé. Mon Dieu, que ça fait professionnel, ça. Et là, renversement, moi, je suis assez surpris, franchement. Buttigieg qui gagne.
Hey, ça, c'est d'autres affaires. On n'a même pas parlé de qui avait gagné. On a juste parlé du processus.
Oui, c'est ça, mais ça reste qu'une victoire de Buttigieg, oui. C'est assez renversant.
Il n'y a personne qui a vu ça venir. On pensait que Sanders allait gagner.
On n'a jamais vu ça venir. Victoire de Buttigieg, et en bas de la liste, Joe Biden, qui est presque... Tu sais, le caucus d'Iowa a ceci de particulier. D'abord qu'il est... C'est essentiellement une joke, hein. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça fonctionner, caucus-là.
Les gens se réunissent, par exemple, dans un gymnase d'école. Là, ils se divisent en fonction de quel candidat ils appuient. Ceux qui n'ont pas 15%, ils sont invités à rejoindre un des autres groupes. Là, tout le monde essaye de faire du lobbying pour t'amener dans le fil.
C'est ça. Puis là, les gens bougent en même temps. Puis qui sont les délégués qui sont présents? Puis comment ils ont été choisis? C'est du folklore, là.
Oh oui.
Et c'est du folklore. Puis autrefois... le caucus d'Iowa, c'était considéré comme une espèce de petit préliminaire sans trop d'importance, puis on attendait au New Hampshire. Mais là, maintenant, c'est devenu que l'Iowa, on est arrivé au point où Iowa, c'est vraiment le début de la campagne des primaires. Et une victoire de Buttigieg, et j'ajoute, j'allais ajouter, excuse-moi, d'aller dans un sens et l'autre, mais elle se passe dans un État qui est sans importance, autant sur le plan économique que démographique et autrement. Mais c'est la machine politique américaine. Il a gagné. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au New Hampshire, qu'est-ce qu'il va faire? Et celui qui est le plus proche derrière lui, c'est Bernie Sanders.
Ouais.
Et là, après ça, tu tombes à...
Warren, qui est troisième.
Oui, Elizabeth Warren, qui est troisième.
Mais là, les deux radicaux de la gauche, là, ils ont dit, tu calcules, les deux votes ensemble, sont très... Écoute, c'est eux qui dominent, là. C'est dans l'Iowa... on n'est pas dans un État ultra progressiste.
Bien, au contraire, c'est un État plutôt conservateur.
Mais c'est ça.
Alors, c'est assez étrange comme résultat. Et ça nous mène vers quoi? Je demeure convaincu qu'il y a quelque chose qui manque au mix. Ça n'a pas de bon sens, cette campagne-là.
Ça peut être Bloomberg, parce que là, tout le monde
dit
Bloomberg n'est pas là. Puis Bloomberg, là, avec les résultats puis le cafouillage qu'il y a eu en Iowa, tant mieux qu'il n'ait pas été là. J'étais ça dans son équipe, je serais content qu'il n'ait pas mis pied là. Mais est-ce que ça pourrait aider une candidature de l'extérieur comme Bloomberg qui va arriver de nulle part au super mardi, là?
Bien, c'est la question que tout le monde se pose et que, franchement, je me pose moi-même. D'abord, Bloomberg est un gars super intelligent, on va être d'accord. C'est un gars, évidemment, d'une richesse incroyable parmi les hommes les plus riches de la planète Terre. Et il y a toute cette question qui, au sein du Parti démocrate, va sûrement être débattue. Je veux dire, le gars est en train d'acheter la Maison-Blanche. Et on dira Trump a fait la même chose, mais pas vraiment.
Il est moins riche. C'est un pauvre riche.
Il est moins riche, pas mal. Ouais. Et là, quand il a vu le cafouillage en Iowa, il a donné ordre à son équipe de faire doubler l'achat publicitaire. Ça veut dire que ça va être un bombardement d'ici New Hampshire. Ça va être extraordinaire. T'as dû les voir, ces pubs-là.
Ouais.
Sont très, très bien faites.
C'est très bon.
C'est très, très efficace. Et Bloomberg, c'est une drôle de campagne parce que, bon, c'est essentiellement de la publicité. Et lui, on le voit pratiquement pas. Je l'ai vu donner une courte entrevue à un moment donné. On l'entend pas, on le voit pas. C'est comme un candidat virtuel.
C'est un fantôme.
Une espèce de fantôme auquel il se pourrait que les démocrates s'accrochent. Parce que là, si on vient joindre ensemble tout ce que tu as donné dans ton préambule, là, hier, la performance de Nancy Pelosi, mais c'est con. Mais c'est... D'abord, parlons de Trump, son discours sur l'État de l'Union.
Oh, personne n'a parlé de ça. Le lieu,
dans ma... Disons, moi, j'ai toujours le même mépris pour Trump, son ignorance, sa vulgarité, sa goujaterie. On pourrait continuer.
Tout un stratège politique, en tout cas.
Oui. Mais ça, je peux pas... Enfin, disons qu'il a changé les règles du jeu pas mal. Mais j'allais dire, dans le style, c'est son meilleur discours que j'ai jamais vu. C'était vraiment extraordinairement bien bâti.
Quelqu'un qui connaît pas ça, là, c'est un discours de campagne électorale où il parle de ses réalisations, puis il parle de sa vision. Moi, j'ai trouvé que c'était... Quand t'écoutes ça, là, t'as l'impression que les États-Unis, sur son leadership, se sont vraiment améliorés, puis c'est le bon gars à bonne place.
Il y a beaucoup de mauvaise foi dans ça, mais il y a beaucoup de mauvaise foi dans la politique en général. C'est pas juste aux États-Unis. Mais ceci étant dit, comme performance, c'était assez exceptionnel. Et évidemment, il a mis de l'avant son côté humain en invitant des gens. Imagine, il a fait des choses qu'on n'a jamais vues. Il donne la médaille de la liberté, de la prise, la Presidential Medal of Freedom. Oui. Il la donne à Rush Limbaugh, à côté de qui Éric Duhaime est un sage, un calme et un gars
et
très
un
modéré. Même à gauche, je dirais. Rush Limbaugh, c'est une légende aux États-Unis. C'est le premier des vrais firebrands, comme on les appelle, de la radio américaine.
Mais pour faire plaisir à sa base électorale, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est extraordinaire. Mais ça, écoute, il lui remet la médaille pendant son discours. C'est quelque chose. C'est sa femme. La femme de monsieur Trump qui, bon. Ensuite de ça, t'as une dame, une noire, avec sa petite fille, qui, évidemment, ne pouvait pas bénéficier de la possibilité d'aller dans une école privée parce que blablabla, le plan de la ministre de l'Éducation, là, comment s'appelle-t-elle? T'en rappelles-tu de son nom?
Cette espèce
de... En tout cas, peu importe. Ne s'est pas appliqué. Les démocrates l'avaient bloqué. Alors, paf! Il annonce là qu'il lui donne une subvention. Le président des États-Unis, t'es assis là. Tu vas te le payer. Je vais te le payer, ton frais de scolarité.
Bravo.
Wow! Ensuite de ça, il y a toute la question militaire. Puis là, il y a cette femme... Comprends-tu, avec ses deux enfants, puis là, il a remercié, puis tous les efforts faits par son mari, puis c'est superbement écrit, franchement, là, c'est certainement pas lui qui l'a écrit, là. Et là, et j'ai une surprise pour vous, la voici, paf! Le mari qui revient de l'Afghanistan,
Il apparaît.
C'est vraiment, là...
C'était hollywoodien, moi, je trouvais que ça faisait comme au cinéma, un peu.
Ça faisait plutôt télé-réalité, ouais. Moi, j'aurais dit. Mais c'était extrêmement réussi. Et là... La séance a commencé par M. Trump qui se présente à sa tribune et comme le veut la tradition, la Speaker of the House, Mme Pelosi, est assise là, puis le président du Sénat, théoriquement parlant, Michael Pence, est à côté d'elle. Elle s'avance pour lui donner la main, il l'ignore complètement. Bon, message numéro un. Ensuite, regardes, moi je pouvais pas m'en...
Le fait qu'il n'ait pas donné la main à Nancy Pelosi, je pourrais peut-être comprendre parce que écoute, elle est en train d'essayer de le destituer, puis on le sait qu'il n'y a pas beaucoup d'amour entre les deux.
Oui, mais je sais ça aussi, mais je sais que la tradition américaine, c'est le respect des institutions.
Ah oui.
Maintenant, ça a changé, ça, sous Trump. Il se dit c'est dur de respecter les institutions avec un gars de main.
Mais là, je veux te parler de Nancy Pelosi, parce que hier soir, là, j'ai un nouveau coup de foudre, Luc.
Je le sais. Éric, je te l'ai dit dans un échange de textos ce matin. Je te soupçonne d'être en train de virer aux femmes.
Ah,
ça
écoute,
a pas de bon
elle,
sens.
Elle me tente, là, sérieusement, ou elle me fait regretter mon orientation. C'est un des deux, c'est selon. Mais écoute, sérieux, là. Hier, là, c'était elle. Elle a réussi à voler le show sans dire un mot.
Ouais, elle a volé le show, mais c'est en train de se retourner contre elle, là. D'abord, je pouvais pas m'empêcher de garder les yeux sur elle pendant le discours, tu voyais qu'elle était malheureuse.
Elle avait l'air de bonne humeur, non? J'ai raconté un vote en Iowa.
Quand il y avait des espèces de bébelles dans le genre le militaire, là, puis femme de Philadelphie avec sa petite fille. Puis
ça y tombait ses nerfs.
Là, elle savait pas trop si elle devait applaudir ou pas. Quand elle applaudissait, on sentait que ça frappait pas fort. Elle voulait pas que ça fasse de bruit. Dans le cas de Limbaugh, elle a pas applaudi. Le reste des démocrates, ben, il y en a qui sont sortis de la salle. d'autres qui restaient assis de glace. Et là, à la fin, j'en revenais pas. Trump finit son discours, un discours extrêmement bien structuré, honnêtement. Je suis obligé de l'admettre. Moi qui ai un profond mépris pour Trump, je dois admettre que c'était tout un discours. Et là, je la vois qui prend ses feuilles puis qui se met à les déchirer comme ça. Puis là, me dit, oh mon Dieu Seigneur, penses-tu qu'ils vont battre Trump en faisant des stunts aussi niaiseux, aussi épais, aussi insignifiants que ça? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'elle fait là, la bonne femme? Mme Pelosi, réveillez-vous. D'abord, s'embarquer dans le... Tu sais, qu'est-ce que ça leur a pris de se lancer dans une affaire de destitution alors qu'ils savaient qu'ils allaient perdre? Tu sais que tu vas perdre. Penses-tu que c'est pas merveilleux pour Trump? Regarde la montée en fin de semaine. Là. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Pouf, l'Iowa. Complet, complet désarroi. Il n'y a plus rien qui marche. Bon, Trump arrive. Lui, il a de l'air de fonctionner. Il fonctionne. Il te livre un discours qui est le meilleur, à mon avis, de sa vie. Et puis... Le lendemain, il est acquitté. Ça va bien, hein?
Écoute, il y a une bonne semaine. Mais là, d'ailleurs, ça va tellement bien que, pour la première fois, j'ai vu des sondages où ton taux d'approbation passe la barre du 50 %.
Ah oui,
ça
du 50, fait... je l'ai vu à 49.
Bon, mais là, ça vient de sortir à 50, 51. Fait que là, il est rendu avec la moitié de la... Écoutez, le moment donné, là, ça allait très mal, sa présidence. Rappelez-vous, au début, là, il n'a jamais eu l'approbation de la majorité des Américains, puis il est en train de l'avoir. Mais j'ai l'impression que c'est pas lui qui est en train de l'avoir. C'est les démocrates qui sont en train de se donner. Puis ça continue de même. Là, je commence à me poser la question sérieusement. Est-ce qu'ils vont dire on annule les élections, puis on va se reprendre dans 4 ans, on n'est pas prête? Non, mais ça a l'air de tout ça.
Mais puis d'un autre, tu sais, t'écoutais son discours hier. Qu'est-ce que tu veux? L'ALENA 2.0, je sais plus c'est quoi les lettres maintenant.
Ah, c'est bon.
Ben, il a fait des gros gains pour ses électeurs. Hein?
Avec ses producteurs laitiers et tout ça.
Son deal avec la Chine, c'est le début, mais c'était essentiel. Même si ça avait été un démocrate, ça pouvait pas durer, cette situation-là. De la Chine qui faisait des surplus commerciaux de 500-600 milliards de dollars par année. C'était assez pour tuer les États-Unis. Alors, il arrive avec ça, il arrive avec des réalisations concrètes. L'assassinat du général Soleiman, ça a tourné pour lui.
Ben oui.
Pourquoi ça a tourné pour lui? Parce que ça a fragilisé le régime iranien comme jamais auparavant.
Puis ils ont tiré sur un avion en plus.
Non,
mais c'est vrai que ça l'a aidé dans le fond. Ça l'a prouvé que c'est un régime de dangereux. Là.
Alors, c'est une situation très, très, très unique. Only in the USA, comme on dit. Trump, maintenant... Il est capable du pire aussi, là. On va surveiller son compte de Twitter dans les prochaines semaines, là.
Ouais, puis il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il achète une carte des États-Unis aussi, là. Parce que là, il a tweeté que Kansas City, c'était au Kansas. Il est capable d'envoyer.
Ouais,
mais
ça, c'est pas fort comme argument, hein, Eric? Sais-tu pourquoi c'est pas fort? T'as-tu déjà été à Kansas City?
Non, mais je suis pas président des États-Unis.
Non, mais des deux bords. La ville est des deux bords. Il y a à peu près trois quarts de la ville qui est au Missouri, puis il y en a un quart qui est au Kansas. Tu sais, vraiment, là, c'est parce qu'on cherche des manières d'y rentrer dedans. Non, mais c'est pas fort, là. C'est pas fort, ça.
Hey, t'es rendu que tu défends mon Trump.
Ben, je le défends. C'est ton Trump, puis même il me tape sur les nerfs, puis il me fait lever le cœur, puis toute l'affaire.
Mais j'ai remarqué, même John Parizelli est rendu dans ta gang. Vous êtes tous les démocrates qui détestaient Trump, puis vous êtes obligés de dire que vous pensez qu'il va gagner.
Lâche-moi, Eric, j'ai jamais été un démocrate, OK? Ben, j'ai jamais été ni un démocrate, ni un républicain.
Mais les gens qui sont très critiques de
Trump.
J'ai
trouvé que Ronald Reagan a été un super président des États-Unis. Et c'est pas parce que j'étais un démocrate, certainement.
OK.
Alors, je suis pas dans la
gang
ça,
de
moi,
Nancy Pelosi, là.
Oh, là, tu veux me mettre dans une gang? Je te dis que je suis pas dans la gang. Là, moi, je suis dans la gang qui cherche la paix, la prospérité, c'est ça que je veux.
OK, ben là, je veux que tu me parles de quelque chose d'autre, parce qu'il y a 4 ans, je me souviens, puis moi, j'ai été au New Hampshire pendant les élections aux États-Unis, j'ai entendu entre les partisans de Donald Trump, tu sais, il criait, il parlait d'Hillary Clinton, puis il disait « lock her up », tu sais, enfermez-la, menottez-la.
Oui, oui.
Puis là, hier, j'ai commencé à voir ces réseaux sociaux que, pour Nancy Pelosi, ils disent pas que c'est des menottes, après, ils disent que c'est une camisole de force.
Un straight jacket.
C'est pas des menottes pour elle. Mais, non, mais on rit, mais c'est rendu là. On dirait que les démocrates apprennent rien. Ils sont en train de répéter exactement l'erreur d'il y a 4 ans.
Ouais, ils veulent pas accepter qu'il y a eu un changement fondamental dans la famille politique américaine. Ils sont toujours convaincus que 2016 a été une imposture, qu'ils le méritaient pas, qu'il a triché pour y arriver avec Poutine, avec ceci, avec cela. Ils ont jamais fait un examen de conscience. Ils se sont jamais posé des questions. Ils ont jamais réussi à nous expliquer pourquoi ils sont maintenant entre les mains de tous les groupuscules de gauche. Ils l'ont toujours été, me direz-vous, mais c'est pas complètement vrai. Ils n'ont jamais été autant dans les mains de toutes ces espèces de petites organisations de patati patata patata. Alors, ils sont en train de payer le prix de leur turpitude. Et tu sais, Trump, là, lui, là, les gens sont chez eux, ils disent, écoute, là, l'économie roule le pied dans le tapis, on a mis les Chinois à leur place, on a été chercher des gains face au Mexique, au Canada.
On se tient debout contre l'Iran.
Fini l'immigration illégale, plus de taponnage. Enfin, on a un président qui prend des décisions, il n'a pas peur, puis on a puis tout ce qu'on a de la part des démocrates, c'est du chiolage, puis il faut bien le dire, les démocrates, depuis 4 ans, ils n'ont pas... J'ai pas entendu, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, j'ai pas entendu une idée intéressante venue d'eux.
En fait, aucune! J'ai entendu pire que ça cette semaine, là. Je les vois, là, puis ils se déchirent entre eux tout le temps.
Oui, ouais, complètement.
T'as vu Hillary Clinton attaquer Bernie Sanders parce qu'elle a peur qu'il fasse bien pendant les primaires démocrates.
Oui, oui.
T'as vu Biden attaquer le parti parce que les résultats sortent tout croche. T'as vu Sanders dire qu'ils veulent pas sortir les résultats parce qu'ils veulent pas y donner la victoire. T'as vu... Là, Pelosi, il y a du monde à l'intérieur même du parti qui vont sortir contre elle. C'est écrit dans le ciel. Là, j'ai l'impression que le parti n'est pas uni.
Il n'est pas uni.
C'est un gros problème à la veille d'une élection.
C'est un joyeux problème à la veille d'une élection et c'est pourquoi je reviens toujours à mon idée de départ. Il manque quelque chose au mix. Est-ce que c'est Bloomberg? Possiblement.
Mais tu penses que les groupuscules d'extrême gauche vont triper sur un multimilliardaire qui était un ancien républicain? Voyons donc.
Non, mais c'est pas ça qu'il veut faire. Il veut aller chercher les votes du centre.
Oui, mais c'est parce que les groupuscules.
Ceux qui ont fait passer Trump dans l'approbation de 36-37 où il se maintenait au début à 50, c'est ceux-là qui veulent aller chercher Trump Bloomberg.
Mais tu penses pas que les groupuscules dont tu parles, qui ont pris le contrôle du parti, ils veulent rien savoir de Bloomberg?
Ben, je pense qu'ils veulent rien savoir de Bloomberg, mais d'une autre façon.
La chicane va pogner.
Oui, la chicane va pogner, mais Bloomberg, quand il a dirigé la ville de New York, c'est un gars qui a agi de façon plutôt modérée et plutôt acceptable pour la gauche. Okay. Alors ça, je ne sais pas, mais je ne peux pas croire... D'abord, Biden, d'après moi, il va en manger une au New Hampshire. Il va en manger une joyeuse au New Hampshire. Puis quand il va s'amener à Super Tuesday, il va être mort. Presque.
OK, fait que toi, tu penses que Sanders, il est mort?
Pas Sanders, je parlais de Biden. Okay, j'ai dit Biden. Sanders. Excuse-moi si j'ai confondu, là, mais je parlais de Biden. Dans le cas de Sanders, il va durer jusqu'à la fin.
Son noyau, il est dur, lui-là. Là.
Son noyau est dur, puis tu dois admettre avec moi que c'est un gars intéressant.
Oui, oui.
C'est la gauche, mais c'est la gauche intéressante et réfléchie.
Il est passionné, puis il a de l'air à être là pour les bonnes raisons. Puis il va aller chercher, d'après moi, le vote d'Elizabeth Warren. Si jamais elle s'écroule ou elle sortir,
oui.
D'après moi, il pourrait aller récupérer. C'est ça qu'il y a un potentiel de croissance.
C'est naturel.
Lui.
C'est
ça
naturel.
Qui est dangereux pour les démocrates.
Et moi, laisse-moi, je sais pas si j'ai le temps, là, mais laisse-moi te raconter une brève anecdote. Je sais pas, il y a à peu près 2-3 ans, alors qu'on parlait beaucoup de healthcare, là, de l'assurance maladie aux États-Unis.
L'Obamacare.
Ouais, l'Obamacare. Il y avait eu un débat, comme les Américains savent en faire, de type town hall, et t'avais d'un côté Bernie Sanders et de l'autre Ted Cruz. Ted Cruz, de qui on parle toujours en mal, l'extrémiste, ceci, cela. Alors, on oublie que c'est un premier de classe, un gars extrêmement surdoué, un des grands avocats de sa génération et tout. Écoute, moi, j'ai acquis du respect lors de ce débat-là. Ça avait été diffusé, évidemment, par CNN, mais ça durait 2 heures de temps. Ça ne portait que sur le fond et ça ne portait pas sur les aspects partisans de l'affaire. Le débat était un des débats intellectuellement les plus élevés que j'ai vus depuis longtemps, longtemps, longtemps. Les deux se traitaient avec respect. Les deux se traitaient avec respect, avec politesse. Et en même temps, avec des arguments forts. C'était vraiment, tu voyais que Sanders, là, c'est pas un faux-né. C'est un gars qui connaît ses dossiers. C'est un gars qui est solide. Malheureusement pour lui, en 2016, il avait, je pense, 73 ans, puis il avait l'air d'en avoir 85. Pas intellectuellement, mais sur le plan physique, le dos voûté, tout ça. Là, ça veut dire qu'il est rendu à 78, 79. Puis là, il a de l'air d'avoir 90. Ça fait que c'est malheureux parce que sur le plan intellectuel, il semble avoir la même acuité.
Quand je dis ça, puis quand j'écris ça sur les réseaux sociaux, les gens me disent « Oui, mais c'est celui qui réunit le plus les jeunes démocrates. »
C'est vrai.
Fait que c'est vrai. Comme un paradoxe là-dedans.
Mais il y a un problème, hein? C'est que les jeunes démocrates, ils votent pas.
C'est comme les jeunes partout sur la planète.
Mais voyons donc! On dit souvent ça ici au Canada. Ah, ça, c'est le parti des jeunes. Mais je me dis, ben, bonne chance, parce qu'ils votent pas.
C'est comme Québec solidaire. Ils sont bien populaires dans les campus universitaires, mais quand il arrive le temps d'ouvrir les
boîtes, ils votent pas.
Ils n'ont pas de vote. OK, ben, Luc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Ben, j'ai réfléchi à ton affaire là, de changement avec Pelosi.
Ah oui, je vais y repenser.
Pense-y comme fou.
J'ai une semaine de penser à ça. Ciao.